Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Patrick. Mohamed est allé se soigner. Voilà, il n'a plus le droit de parler jusqu'à ce que guérison s'en suive. On le retrouve très vite, j'espère. Et puis le point cuisson de 20h avec notre chef de la semaine, Vincent Favre-Félix. Bonsoir, merci de passer cette semaine à nos côtés. Vous êtes le chef du restaurant qui porte votre nom, qui se trouve à Annecy. Et je vous propose un avant-après hein, ce soir. Avant. C'est ça, c'est cet énorme brochet, voilà, pêché dans les
pêché
eaux...
dans les Alpes, lac Léman, à Annecy.
Dans le lac Léman, pas loin
d'Annecy.
Et après, eh ben, c'est au four, après.
Là, c'est au four, mais vous allez nous préparer, donc je vais vous faire participer.
Donc, il est là, le brochet, là.
Voilà, tout à fait, on a fait une mousseline de brochet. Et donc, je vais vous laisser prendre la poche et faire un petit boudin, comme ça, dans la côte de Blette.
Vous voulez que je fasse un petit boudin? D'accord.
Non.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Faux.
Pardon. Ah oui, bah oui, mais j'ai jamais fait de boudin. Ah, pardon, bah oui.
Plus, voilà, plus doucement, plus régulier.
Et après, on roule le tout.
Après, on roule avec la feuille de blette.
Et vous nous montrez ce que ça donne après, pendant que je roule.
Voilà, tout à fait.
Voilà, hop, hop, hop. Et attention, le après va arriver miraculeusement sous vos yeux ébahis. Attention, Vincent. Il y a un suspense insoutenable. Bah voilà, c'est magnifique. Ça, c'est pas moi qui les ai faits. Voilà, et c'est ce que vous allez nous servir avec des blettes.
Avec les côtes de blettes, tout à fait, qui sont cuites à basse température et que là, on est en train de faire rôtir au beurre, tout simplement.
Voilà, à tout à l'heure pour le dîner de C'est à vous. Et ça, ce sera présentable, ça.
J'ai peur que ça ne tienne pas. Mais...
on a peur que ça ne tienne pas, mais si, vous allez me le faire tenir. Merci beaucoup, cher Vincent. Merci. Les miens, c'est d'abord les siens. La famille de Roche-Dizem, confrontée à l'accident du Benjamin de la famille, brusquement devenu détestable après un grave traumatisme crânien. Une œuvre autobiographique, sincère, drôle, dramatique à la fois, et une famille qui pourrait aussi être la nôtre.
C'est un trauma crânien franchement grave. Il s'est passé quoi au juste?
C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant.
Je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif.
Merci. Combien on te doit?
150 euros. En chèque ou en espèces, parce que je prends pas la carte bleue.
Bah, je vais prendre ton chéquier, doudou.
J'avais décidé de t'emmerder jusqu'au bout, là.
Maman, tonton, là, c'est l'exorciste.
On le connaît plus du tout, là.
Il est plus irritable, donc forcément, il est un peu plus agressif.
Elles sont nulles, tes vidéos, et t'es moche.
La bonne nouvelle, c'est que c'est provisoire.
Je t'ai jamais vu comme ça de ma vie.
Ah, tu crois que j'ai besoin d'un merdeau de 27 ans à vacher sur mon canapé, à jouer H24 à ce jeu débile?
T'as ton petit frère qui est inconscient. Encore une fois, c'est moi qu'on appelle.
Et moi, j'aurais pu gérer, mais on me demande rien.
Bah non, on sait qu'il faut pas compter sur toi.
On te dit tous la même chose, en fait, mais tu veux pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc, c'est qu'en plus, tu te prives de bons moments.
J'ai besoin de vous, moi. Vous êtes ma famille. Je vous aime. Ça se voit pas.
J'aurais adoré avoir une famille comme ça.
Les miens, c'est le sixième film de Roche-Dizem qui se révèle sans phare devant et derrière la caméra. Il est ce soir notre invité. Salut Roche-D. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous, Émilie, Pierre et Patrick. Sont là, on est ravis de vous accueillir sur le plateau de C'est à vous qui ce soir devient C'est aux M.
C'est vrai, j'ai vu ça. Ouais.
Non, parce que vous venez avec votre frère Mustapha, dont l'histoire est portée là au cinéma par Samy Bouajila, qui est aussi votre frère de cinéma.
Ah oui, on peut le dire comme ça.
Ouais. Votre fille Nina, qui fait ses premiers pas de comédienne et qui est franchement épatante. Et puis Samy, voilà, c'est ça. Ils seront tous les trois autour de vous tout à l'heure. Ça fait
le troisième, c'est mon frère qui vient venir présenter son livre.
Oui, voilà, c'est ça. Il me manquait.
Ouais. Donc c'est une opéra.
Ah oui, vous êtes venus en nombre.
Oui. C'est une opéra. Oui, on est consentants. Hein. Tout va bien. Tous les trois, ça fait au moins trois bonnes raisons d'aimer le film. Mais il y en a trois autres que nous présente Patrick.
Qu'est-ce qui se passe quand, dans une famille unie et heureuse, l'un de ses membres perd tout à la fois sa femme, son boulot, la mémoire, le goût et l'odorat, son lien avec ses enfants et surtout sa joie de vivre, sa gentillesse et sa générosité. Samy Bouajila est l'homme de cette métamorphose, nounours changé en Tati Daniel après un coup de tête, méchant mais triste, d'une tristesse qui nous touche au plus profond quand sa méchanceté nous fait rire. Bouajila est un très grand acteur. À ses côtés, une famille qui ressemble à tant d'autres. C'est l'un des miracles de ce film colorblind, comme disent les Américains, c'est-à-dire où l'origine n'est pas un sujet. Une famille donc qui ressemble à la mienne ou à celle de Babette, peut-être encore plus à celle de Babette parce qu'elle a plein de frères et sœurs. Avec une tata dévouée, une nièce obsédée par le succès de ses vidéos Instagram, un neveu complotiste convaincu que la Terre est plate et un frère qui a réussi, c'est vous, Rochdy, animateur télé d'une émission de foot, aussi handicapé du cœur que l'autre est handicapé de la tête. Il y a du miracle pas forcément dans cette façon de vous mettre en scène, dans cette manière de subir le réquisitoire de Maïwenn quand elle vous démontre en trois phrases calmes et implacables qu'elle en sait plus que vous sur les peines de vos proches. Scène saisissante et admirable qui vous ramène, qui ramène votre personnage sur le chemin de la fraternité et magnifique Maïwenn. Comme j'ai vu le film avant de lire le dossier de presse, je ne savais pas que cette famille et cette histoire étaient les vôtres, mais je voyais bien la sincérité du récit, le naturel des dialogues dans ces repas de famille qui paraissent aussi vrais que le gigot de 7 heures que vous vous partagez. Et surtout j'ai vu le grand amour et l'immense tendresse portée par ce film à la fois intime et universel comme une déclaration à ceux qui vous sont le plus cher.
Les miens, c'est les autres qui en parlent le mieux, j'ai l'impression. Merci,
non,
parce que
non,
tout, est très juste, tout est très juste. Je ne sais pas quoi ajouter parce que honnêtement, vous en parlez mieux que moi. Donc...
pour rebondir sur ce que dit Patrick, je ne connaissais pas le terme de colorblind. Mais
colorblind, ça veut dire aveugle à la couleur de peau.
Exactement.
Et à l'origine ou à la religion.
C'est l'un des défis du film et vous en êtes très heureux. C'est-à-dire que les origines de cette famille ne soient pas le sujet du film.
Ce n'est pas une stratégie de notre part avec Maïwenn quand on a essayé d'écrire ce film. J'ai écrit avec les yeux, donc j'ai raconté ce que je voyais, ce que ma famille subissait, la convalescence de mon frère, comme vous l'avez souligné. Et évidemment, c'est l'humain qui prime, la souffrance, les échanges, les mots trop hauts, la violence des réactions, voilà, comme tout à chacun. Et évidemment, involontairement, on a évité les écueils liés à l'origine ou à la culture ou à la religion. Je m'en suis rendu compte sur ma table de montage, en réalité. Et effectivement, j'ai réalisé qu'il y avait un sujet universel, mais... C'était pas calculé au départ.
Dans lequel vous n'avez pas le bon rôle. Hein. Ce Riyad, c'est le frère qui a réussi, mais il est radin, susceptible, autocentré, de mauvaise foi. Quand on l'appelle, il ne rappelle jamais. Longtemps, vous avez pensé que votre réussite, elle suffisait à obtenir l'amour des vôtres.
Oui.
Il
ne
fallait pas en faire plus, quoi. Quand il parle de mea culpa, Patrick, c'est un peu ça.
Oui, bien sûr. C'est même une démarche thérapeutique, on peut le dire comme ça. Mais on a, quand on a une notoriété, et là, vous allez... comprendre de quoi je parle, ça nous confère un statut particulier au sein de notre famille, surtout quand c'est une famille issue d'un milieu modeste. Et cette lumière qui est sur nous, quelque part, elle éteint un peu les autres. Et je crois que inconsciemment, involontairement, j'ai oublié de les regarder, j'ai oublié de les écouter. Voilà, donc ce film est aussi là pour réhabiliter cette erreur.
Vous avez une qualité, vous n'avez pas les pantacours.
Je déteste les pantacours.
Mais vous en faites ces reproches-là dans la vie?
Pas réellement. Non, absolument.
Aussi franchement qu'on vous les fait.
Mais carrément pas. J'ai été protégé. D'abord, ça a été initié par mes parents, enfin plus précisément par ma mère.
Fallait pas embêter, je dis.
Oui, il fallait pas le déranger, fallait le protéger. Il a une carrière, il est acteur, faut pas. Et mes grands frères et mon jeune frère également, on a beaucoup souffert. Il y a une vraie forme d'injustice. Et je crois que j'en ai profité, très honnêtement. C'est une situation très confortable parce que, du coup, quand on est confronté à des problèmes, à des obstacles où il faut s'impliquer et physiquement et moralement, eh bien, voilà, j'avais un tournage, j'avais un rendez-vous, j'étais exempté. Et voilà, donc...
Voilà,
c'est tout, c'est de s'en rendre compte. Hein. Il est jamais trop tard.
Il était temps quand même.
Oui.
Les miens, ça sort mercredi au cinéma. On en parlera avec les vôtres,
ouais,
qui vont rejoindre dans un instant. Mais là, pour l'instant, c'est l'heure des infos express, en fait, de l'info express de C'est à vous, représentée ce soir par Émilie.
Deuxième info, Rojdi, c'est que vous êtes le parrain d'une association, l'association Saint-Bernard, qui fait des distributions alimentaires, mais aussi des distributions de vêtements. Et on a assisté à l'une d'elles, c'était hier matin. Louis Amar et Camille Schmitt y étaient.
Ça va le manteau ?
Oui, ça va.
Là, on rentre dans le vestiaire. Il faut savoir que toute la semaine, il y a des équipes de bénévoles qui vont récupérer des vêtements chez Emmaüs. Il y a des particuliers aussi qui en donnent, qui en déposent. Il n'y a pas de stock limité, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive et a vraiment besoin de beaucoup de choses, ben, la personne partira avec beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça que derrière nous, il faut qu'on ait un stock énorme. Et malheureusement, il y a des week-ends où on est obligé de fermer le vestiaire parce qu'on n'a pas assez.
De quoi vous avez besoin, vous, aujourd'hui ?
Des habits du froid.
Ouais, ok, pour l'hiver. Vous avez besoin pour votre fille ou...
Oui, j'ai besoin aussi.
Ok, pour ma fille. D'accord. Eh ben, on est bien là, non ?
Oui, très bien. Merci.
Ils sont chaleureux, gentils. Ah, et ils vous laissent faire le choix que vous voulez. Ils vous aident.
C'est comme une famille.
Bonsoir Laure Bessinger.
Bonsoir.
Merci de votre présence. Vous êtes bénévole au sein de l'association Saint-Bernard depuis 2020 avec le même constat que dressait il y a quelques minutes sur ce plateau le patron des Restos du Cœur. Une demande qui flambe, une précarité préoccupante, notamment des mamans, des mères célibataires, avec de plus en plus de mères dénutries qui ne peuvent plus allaiter. C'est ces femmes-là que vous croisez à l'association Saint-Bernard ?
Oui, en fait, on croise une population vraiment très hétérogène. Alors, effectivement, il y a une part très, très importante de mamans célibataires avec leurs enfants. Il y a aussi des personnes qui sont au chômage, des personnes qui ont des revenus, des emplois précaires, des personnes qui ont des emplois stables aussi, mais avec des revenus insuffisants pour faire face à toutes les charges. Oui, c'est vrai qu'on sait qu'il y a un enfant sur cinq en France qui vit dans une famille pauvre. Nous, notre distribution alimentaire, elle est vraiment destinée aux familles de la goutte d'or. Et donc, on croise beaucoup d'enfants et on croise beaucoup de mamans. Et effectivement, une maman dénutrie ne peut plus allaiter. Et quand on sait que le prix du lait, d'un lait en poudre, c'est 11 euros... Voilà.
Donc, d'où l'importance de la distribution de lait maternisé. Émilie ?
Comme tout le monde, en tant qu'association, vous faites face à l'inflation. Pour les 180 bénéficiaires, le coût pour assurer cette distribution alimentaire, il est passé de 4 800 à 7 000 euros pour les mêmes produits.
Oui, donc on accompagne 180 familles, effectivement. Ouais. Donc ça fait beaucoup plus de personnes si on compte les enfants et puis quand il y a deux parents. Et oui, alors les familles, elles constatent une inflation de 15 à 20% sur les produits de base. Donc ça, c'est ce qui impacte le plus les familles. Et nous, à la distribution, concrètement, on achète les produits. Oui. Pourquoi ? Parce que les familles ont besoin de produits bruts à cuisiner, que pour nous, la lutte contre la précarité alimentaire passe par une alimentation sûre, qui est diversifiée, qui est en quantité suffisante. Pour nous, c'est très important de donner 4 kilos de fruits et légumes frais dans chaque colis alimentaire. Mmh. Et on a vu cette année, nous aussi, exploser le prix d'une distribution alimentaire. Et comme vous dites, on est passé de... Avant, on était aux alentours de 4 800 euros pour un colis de plus de 25 kilos de produits bruts à cuisiner. Aujourd'hui, on est à environ 7 200 euros.
Et donc, vous demandez aux distributeurs d'agir, donc, de vous faire des prix coûtants.
Des prix coûtants ?
Alors, nous, on demande, avec Rojdi, depuis 2020, la première fois qu'on est venu sur ce plateau pendant le second confinement, déjà, on avait lancé un appel à la grande distribution en disant « On ne vous demande pas de nous offrir, on vous demande de nous vendre les produits à prix coûtant puisque c'est des denrées alimentaires de première nécessité, des produits de première hygiène et des produits bébés. » Et pour le moment, on a refait un appel en 2021. Et ça ne marche pas. On n'a pas de réponse là-dessus. Et le problème, c'est que pour pouvoir agir, il faut vraiment que les forces se rassemblent et se mobilisent ensemble. Et si ni les pouvoirs publics n'apportent d'aide directe à la mesure des besoins...
Vous avez fait appel aux pouvoirs publics, vous ?
On les interpelle et on n'est pas les seuls. Nous, on est une petite association de terrain, mais on les interpelle, oui. Et d'ailleurs, il devait y avoir un chèque alimentaire qui devait être distribué là, dont on entend parler depuis 2020. Finalement, il y a eu juste une aide exceptionnelle de prime de rentrée de 150 euros. La première ministre, Madame Elisabeth Borne, a dit qu'elle allait donner 60 millions d'euros en 2023. Le Secours populaire indique qu'il faudrait 200 millions d'euros pour subvenir, répondre aux besoins de 2023. Et là où nous, on est très, très inquiets, c'est que dans le budget de 2023, ces 60 millions n'apparaissent pas. Mmh. Et qu'on a de plus en plus de familles qui sont là. Enfin, il faut savoir qu'il y a quand même 4 millions de personnes en France qui ont besoin de l'aide alimentaire pour se nourrir.
On a fait un appel pour le Resto du Cœur, pour l'association Solidarité Saint-Bernard. Comment aider ? Il y a une adresse ?
Alors oui, on a une cagnotte en ligne. Donc,
elle s'affiche sur l'écran,
Elle va s'afficher. Et donc, du coup, voilà, le mieux, c'est de... On fait un appel à la solidarité pour qu'on puisse tenir. Donc nous, on distribue de novembre jusqu'à mi-avril. Pour le moment, on a de l'argent jusqu'à fin décembre. Ouais. C'est trop peu, c'est trop court. On a besoin de récolter de l'argent pour pouvoir tenir jusqu'à mi-avril.
Bon, je dis, vous étiez déjà venu accompagner Laure pendant le premier confinement. Cet engagement, c'est une évidence, eu égard à l'histoire de vos parents aussi.
D'abord, mes parents, arrivés dans les bidonvilles. Aider, nous, on a été aidés à l'époque par le Secours catholique, donc l'église Saint-Bernard, ça me parle, évidemment. Mais c'est cette précarité à laquelle on est confronté au quotidien. C'est celle-là qui nous dérange. Et donc, on peut contribuer. Il y a des gens formidables, comme Laure, qui sont sur le terrain, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année. Donc, c'est des gens pour lesquels j'ai une admiration profonde. Moi, ma contribution, elle est assez modeste, c'est d'offrir cette tribune. Et voilà. Donc, et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que la moitié de ces familles sont françaises. C'est pas que des étrangers. C'est ça qui est important parce que en ce moment, on parle beaucoup d'étrangers, des migrants et de voilà. Il y a eu des phrases qui n'auraient pas dû être prononcées. La moitié de ces familles sont françaises. C'est ça qui est important de préciser également, il me semble.
Ouais, ouais. 80% vivent vraiment dans leur propre logement. Et sur les familles qui ne sont pas françaises, en général, la moitié des personnes à nos distributions alimentaires restent à peu près 2 ans. Pas plus s'en sortent. Et qui s'en sort le plus vite, parce que qui se débrouille le plus vite pour trouver un travail et se remettre à flot, c'est les personnes récemment arrivées en France. Et ça aussi, je pense que c'est important de le dire.
Précisément.
Merci beaucoup, Laure Grisinger, Association Solidarité Saint-Bernard. L'adresse où vous pouvez participer au don, c'est affiché sur votre écran. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau. C'est à vous, c'est l'heure de l'œil de Pierre.
Je vais parler tout à fait autre chose, je vais vous parler de dessins de presse. Johann Sfar, c'est plus de 130 titres de BD depuis ses débuts en 1994. Alors ce Niçois tellement talentueux nous a transportés avec le vent nouveau qu'ont représenté Petit Vampire, Donjon et bien sûr Le Chat du Rabbin. Mais son œuvre dessinée s'est poursuivie avec un cartoon, un dessin toutes les 2 semaines, en alternance tout simplement avec Jean-Jacques Sempé jusqu'à ces derniers mois, dans Paris Match. Et en plus, il raconte très très bien tout ça, alors qu'il publie chez Gallimard, à la fin des catastrophes, le recueil de ses dessins dans Paris Match.
On savait chez Paris Match que je rêvais de faire du cartoon, et le gars qui alternait avec Sempé a arrêté. On m'appelle, on me propose, et je dis « je veux l'accord de Sempé ». J'appelle Sempé, il me propose d'aller déjeuner, il me dit « écoutez, je vais être honnête avec vous, votre travail ne m'intéresse pas, je déteste les bandes dessinées, j'ai eu la chance de connaître Steinberg et Chaval, qu'est-ce que vous voulez que je m'intéresse aux jeunes ?» J'ai dit « Jean-Jacques, si c'est ainsi, je vais décliner la proposition. » Et il m'a dit « ah non, si on a la chance de gagner 3 francs 6 sous avec le dessin, il faut accepter, je vous ordonne d'y aller, et s'il vous embête, vous me le dites, je vous défendrai. » Et là, il y avait tout Sempé dans cette déclaration, c'est que je crois qu'au-delà de la rugosité, il y avait une pudeur chez lui face au dessin.
Alors évidemment, il y a eu comme un dialogue à distance, une inspiration pour Johann Sfar qui découvrait le cartoon, le dessin unique, l'aquarelle aussi, et les légendes qui en disent long souvent en bas de ses dessins, avec l'air de ne pas y toucher.
Le grand dessin et le dessin à l'aquarelle me sauvent un peu de la bande dessinée. Soudain, je retravaille mon dessin, je suis face à mes limites aussi, je ne suis pas très bon en couleur, je ne suis pas très bon en grand format, donc je m'énerve moi-même, j'en jette, alors que les BD, je ne jette rien. Donc c'est une manière, je ne dirais pas de remettre mon titre en jeu, mais de me mettre un petit peu en danger. Et il y a la recherche de la petite phrase, qui pour moi est un travail d'écriture. Vous savez, dans les années 20-30, dans ce type de cartoon, l'illustrateur livrait un dessin et quelqu'un d'autre dans le journal trouvait une légende. Ben là, c'est presque la même chose. Je fais mes dessins et je fais les légendes 3 semaines ou 1 mois après. Donc, je vais trouver 2 personnes qui se parlent dans un café avec un masque Covid qui pend à l'oreille. Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Et je verrai après.
Et en même temps, il arrive à Johann de retrouver presque la forme d'écriture des bulles de BD. Regardez ce dessin génial. Elle est au téléphone un 24 décembre au soir et elle dit «
J'ai pensé que ce serait dégueulasse de te quitter pour Noël et que ce serait encore plus moche de te quitter par téléphone. Et à force de penser ça, j'étais en train de me gâcher le réveillon. J'ai senti que si je te parlais pas ce soir, j'allais t'en vouloir. Vous voyez que c'est... ça fait un bon scénario. Vous voyez que c'est un bonheur que ces cartoons de Johannes Farr. Sur le sens des mises en scène, je vous rappelle qu'il a réalisé son Gainsbourg, Vie héroïque, et aussi La fille dans l'auto avec des lunettes et un fusil, qui était une très bonne adaptation de Sébastien Japrisot. Et comme Sempé, Johannes Farr, qui n'a jamais été avare de ses points de vue, reste plus à distance de l'actualité dans Paris Match.
Ça, c'est une autre chose que Sempé a dit. Il m'a dit, il y a deux lois dans Paris Match. Un, tu ne parles jamais d'actualité. Deux, tu n'es jamais méchant. Et je lui ai dit, pourquoi ? Parce qu'il y a de la censure. Il m'a dit, personne ne te censurera jamais. Mais si tu es méchant, tu recevras 300 lettres et ce n'est pas très agréable. Paris Match, c'est un journal unique dans lequel il y a encore de la photographie partout, du grand reportage, etc. Et l'idée, la noblesse du dessin, d'entrer par une aquarelle, d'entrer dans un dessin, ça impose une certaine neutralité qu'on ne trouve pas du tout dans mes carnets et dans mes diverses interventions. Je peux être très politique dans le reste de mon travail, mais pour moi, il y a une vraie difficulté. C'est plus difficile d'être gentil, d'être contemplatif. Parfois, j'en pense pas moins.
Alors, à la fin des catastrophes de Johannes Farr, c'est chez Gallimard. Je vous l'offre, Laure.
Oh, merci.
Et puis, je vous propose encore deux dessins pour conclure cette chronique sfarienne. Deux dessins bien parisiens. Regardez celui-ci. Je peux encaisser tout de suite. J'ai fini mon service, dit la serveuse. Ben, on n'a pas encore été servi. Oui, mais à Paris, c'est assez... Ça rappelle des souvenirs. Je vois autour de la table. Et puis, un joli dessin tout muet. Ces jeunes femmes qui sortent du palais du Cil. Et elles ont toutes des cils extrêmement ourlés.
Ah oui, c'est magnifique, ça, le...
C'est signé Johannes Farr.
Baracil.
Baracil.
Merci beaucoup, Pierre. C'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. Merci, Laure.
Les Champs-Élysées parés de mille feux, c'était il y a une heure à peine, devant des spectateurs heureux.
À l'heure de la sobriété énergétique, de plus en plus de communes ont décidé de baisser drastiquement, voire de couper leur éclairage public la nuit.
Je suis écologiste, mais je trouve que la joie de Noël, il faut la fêter.
Et quand c'est allumé aussi, c'est parfait, c'est Noël.
Mon chien aussi a peur de sortir... On a le cœur qui palpite un peu plus fort que d'habitude, que quand il y a de l'éclairage public. Le sentiment, c'est la peur, l'angoisse.
La centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, à nouveau prise pour cible par des tirs d'artillerie aujourd'hui. Plus d'une dizaine d'explosions ont secoué le site, qui est, rappelons-le, la plus grosse centrale nucléaire d'Europe.
Les Ukrainiens l'appellent le train de la victoire. Une semaine après le départ des forces russes, le premier symbole de la vie qui reprend à Kherson, sous les acclamations.
Oh, elle est pas belle, la vie.
8 mois qu'on attend ce moment. Elle a vécu sous l'occupation, elle a été courageuse.
Oh ma chérie, je t'aime.
Les tristesses et les jours plus moroses, que chaque ami touche un juste temps d'une pause. Elle est belle, la vie.
De nombreux rassemblements, aujourd'hui un peu partout en France. Rassemblements de Paris à Lille, en passant par Strasbourg ou encore Montpellier, contre les violences sexistes. Manifestation qui répondait à l'appel de 90 associations. Elles entendent lutter contre les dysfonctionnements de la justice et souhaitent rendre hommage aux victimes.
Le cortège parisien est festif, mais il condamne une réalité. Déjà plus de 100 féminicides depuis le début de l'année.
Qui a le droit ? Qui a le droit ? Qui a le droit de faire ça ?
Il est le chef suprême des talibans. Hibatullah Akhundzada, successeur du Mollah Omar, n'apparaît presque jamais en public. Cette semaine, il a ordonné par décret aux juges afghans d'appliquer la charia de la manière la plus stricte et extrême. En d'autres termes, c'est le retour des exécutions publiques, des lapidations ou des amputations. Les femmes, elles, ont désormais interdiction totale de voyager seules, d'étudier ou même de se rendre dans un parc d'attractions.
C'est un incendie comme un défi au régime des ayatollahs.
La maison natale de celui qui fut le chef de la révolution islamique est en feu. Une Iranienne filme et s'adresse aux manifestants.
Bravo, vous brûlez la maison de Khomeini. Bravo, je vous félicite.
Dernière touche avant de conclure cette tournée d'automne qui va s'achever sur une nouvelle victoire de l'équipe de France. Une 13e victoire consécutive, l'équipe de France qui va terminer cette année 2022 invaincue.
Karim Benzema, forfait pour la Coupe du Monde. Blessé hier à l'entraînement, le joueur a déjà quitté le Qatar quelques heures seulement avant la cérémonie d'ouverture.
Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, depuis ici, le Qatar, depuis un pays arabe, soyez la bienvenue pour la Coupe du Monde 2022.
Aujourd'hui, je me sens Qatari. Aujourd'hui, je me sens homosexuel. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens travailleur immigré.
Plusieurs collectifs s'élèvent contre cet événement et ses conséquences.
C'est 6500 morts au moins parmi les ouvriers. C'est des conditions de travail et de logement qui sont incompatibles avec la dignité humaine.
On nous a appris à croire que nous étions dispersés sur la terre en tant que nation et tribu pour que nous puissions apprendre les uns des autres et avoir la beauté malgré les différences.
Pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, il a fallu bouger tous les calendriers nationaux, car en juin, il fait trop chaud dans ce petit pays, grand comme l'Île-de-France. 20 novembre, 18 décembre donc, même à cette période de l'année, il a été décidé de climatiser les stades.
4 heures du matin, clôture des débats. Visage fermé, applaudissements timides. Un coup d'œil dans la salle suffit pour comprendre que cette COP est loin d'être un succès. Et le président de la précédente COP lui-même ne mâche pas ses mots.
La poursuite des efforts pour en finir avec le charbon n'est pas dans ce texte. Un engagement clair pour la sortie des énergies fossiles n'est pas dans ce texte.
Il y a des nouvelles qu'on aimerait ne jamais avoir à annoncer. On a appris la disparition de Pascal Joseph, un grand monsieur de la télévision, ancien directeur des programmes de France 2 et France 3, un grand professionnel qui a contribué à lancer beaucoup d'émissions comme Taratata, comme Foufrou. La présidente Delphine Ernotte salue ce midi un seigneur de la télévision publique. Il avait 68 ans. Et nous pensons à sa famille, à ses enfants et à ses proches. C'est la fin de cette édition. Merci à vous. Passez une belle journée.
Voilà pour le vu du jour. Une chute, un traumatisme crânien, une commotion cérébrale et des effets secondaires déroutants, des émotions décuplées et un frère, un oncle, un père qui dit tout ce qu'il pense sans plus aucun filtre.
Déjà, tu fais des études de com', c'est-à-dire qu'en réalité, tu fais rien. Ouais. Comme on n'a pas poussé la connerie assez loin, il faut en plus que ce soit à Montréal.
Mais papa, je
Non, il n'y a pas de mes papas. Je peux plus financer ces conneries.
Oui, mais parce que je voulais te proposer quelque chose, c'est pour ça. Tu m'écoutes pas. En fait, je me suis dit que tu pouvais demander à Riyad de te prêter de l'argent. C'est ton frère, il est blindé, ça lui change rien.
On en a parlé pendant 2 jours, j'en peux plus, je veux juste que tu...
Et je sais, mais je t'en parle tout le temps parce que c'est important, parce que je vais partir bientôt, tu comprends?
Pars.
Mais j'ai pas mon billet, j'ai rien là.
C'est pas mon problème.
Mais papa, putain, tu comprends pas ce que je te demande?
Si, je comprends.
Mais non, tu comprends rien!
Mais si, je te dis.
Je t'ai dit que je devais partir bientôt, j'ai besoin que tu m'aides, tu m'avais dit d'accord, et là tu me demandes de me débrouiller, je comprends pas, je peux pas me débrouiller maintenant!
Tu veux partir?
Mais oui, je veux partir!
Mais papa?
Mais je peux pas, j'ai besoin que tu m'aides!
Bah, tu te démerdes.
Nina Zem, Samy Bouajila, salut à tous les deux.
Salut. Bonsoir, salut. Bonsoir tout le monde.
Ravi de vous accueillir aux côtés de Rochdi, qui n'imaginait personne d'autre que vous, Samy, pour incarner son frère à l'écran, parce qu'on connaît vos liens, vos parcours parallèles, on y reviendra. Mais ce rôle, surtout, qu'il soit ou non l'interprétation à l'écran de la vie en du vrai frère, de Rochdi, il vous intéressait, il vous passionnait.
Ah, mais je ne savais pas de quoi il en retournait d'abord, mais ce que je retiens, en tout cas, de ce que vous dites, et c'est assez vrai, c'est le deuxième rôle que Rochdi me propose, et ce sont à chaque fois des challenges d'envergure. Et c'est un vrai bonheur parce que j'ai l'impression que ça se fait avec évidence. Moi, je me livre totalement, mais alors totalement, c'est mon vrai plaisir. Je me dis même de le faire sans filet, c'est encore mieux. J'attends juste qu'il apparaisse, il me dit « on va là, on est déjà là-bas ». Non, mais ça se fait aussi simplement que ça, sincèrement.
Mais le fait d'être sans fil, débridé, ça, vous avez adoré.
Oui, j'ai adoré.
Quitte à martyriser la pauvre Nina, là, qui joue votre fille à l'écran.
Oui, mais on se marrait bien, hein.
Vous avez aimé ça?
Non, j'ai vraiment aimé, mais non seulement pour ce que je viens de vous dire, mais en plus parce que l'esprit de famille y était, pour pas dire l'esprit de troupe, quoi. C'était, il y avait une évidence, quoi. Ça s'est tourné vite en 4 semaines et on était contents d'être là et on remplissait bien nos journées et on était tous ensemble, quoi. Voilà.
Nina, est-ce que vous avez passé un casting pour faire partie de cette troupe de cinéma?
J'ai passé un casting, ouais. Un peu, vraiment, peut-être une semaine avant...
À la maison ou...
Non, en fait, j'avais d'abord lu le film par curiosité, sans...
imaginer que vous en feriez
partie. Voilà. Ensuite, Roger m'a proposé et j'ai passé un casting avec la directrice de casting du film chez elle. Un samedi, un peu, 4-5 jours avant le tournage. C'était vraiment pas du tout prévu à la base de...
Mais en fait, j'avais pas réalisé que l'actrice qui me convenait était à côté de moi. C'est vrai, hein. Parce que j'en ai rencontré plusieurs, et des très très bonnes actrices, en plus. C'était pas un problème de qualité, c'était un problème de personnalité. J'avais besoin de quelqu'un qui soit, quelque part, un peu en paix avec elle-même, un peu... qui ait cette nonchalance qui lui est propre. Et c'est sa propre mère qui m'a dit...
Elle est là.
Et je lui dis, ça t'intéresse? Et tu m'as dit, grave.
Si l'un de mes deux enfants devenait comédien, j'estimerais avoir échoué dans l'éducation. Quand même acteur, ça reste un truc de loser. Roche disait même en 2010. Qu'est-ce qui s'est passé là? En 12 ans, vous avez complètement changé d'avis.
Non, mais d'abord, je ne sais même pas si elle veut devenir actrice. Mais surtout, j'avais besoin... je disais ça pour qu'ils aillent au bout de leurs études.
Ce qui est le cas, puisque Nina a un master en psychologie, quoi.
Elle l'a eu juste avant de tourner.
Pendant le tournage.
Ah, pendant.
Parce que je ratais des cours et j'allais à des cours un peu entre les journées.
Mais vous l'appelez pas papa?
Ça dépend. Enfin, si, je l'appelle papa, mais
là, c'est Roche Dizem, le réalisateur.
Non, mais ça dépend. Ben, mon frère l'appelle Roche Dizem.
Ah ouais.
Moi, ça dépend, mais...
En même temps, je ne l'appelle pas fille, je l'appelle Nina. Donc...
En tout cas, ce film, il pose la question de notre rapport à la vérité. Est-ce qu'on se dit tout? Est-ce que vous dites tout? Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut tous dire? Ça a beaucoup inspiré Mathieu Noël sur France Inter.
Cette histoire de mec qui, suite à un traumatisme crânien, devient complètement sans filtre, m'a donné à réfléchir. Et si ça nous arrivait ici, dans l'équipe d'Inter? Nicolas prendrait l'antenne, comme si de rien n'était.
Ce matin, exceptionnellement, c'est un comédien raté que nous accueillons.
Bonjour Gilles Lelouch.
Bonjour.
Fin de tous les partenariats d'Inter avec le cinéma français. Nicolas continuerait de développer sa pensée hors antenne, disant enfin tout haut ce qu'il pense de Léa Salamé.
D'une intelligence foudroyante, mais passe son temps à se défoncer.
Alors, évidemment, comme dans votre film, Roche dit, il serait suivi, très entouré par ses proches, peut-être même on le laisserait revenir au travail. Tiens, Nico, regarde, qui nous rend visite ce matin, l'immense acteur Roche Dizem.
Surnommé le Gland.
Alors pas du tout, Nicolas, pas du tout, Monsieur Zem est un grand comédien français, personne ne le surnomme le Gland.
Ouais, on imagine ce que ça ferait, il faut vraiment pas tout se dire alors.
Ah, vous voyez, ça peut donner. Non, mais en plus, ça révèle aussi des frustrations. C'est ce qui a déclenché cet accident. Ça a ouvert la boîte de Pandore, en réalité. Une famille, même si elle est unie comme l'est la mienne, elle paraît comme ça insubmersible. Mais quand vous avez face à vous quelqu'un qui débite des vérités, c'est pas des choses farfelues, c'est quelque chose qui est enfoui et qui est, c'est ce qu'on appelle les vérités tues. C'est des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on soupçonne, c'est des non-dits qu'on évite. Et pour avoir cette convivialité nécessaire au sein d'une famille, on préfère les taire. Donc, quand on a lâché le fauve, ouais, tout le monde le fuit ensuite. C'est ce que raconte le film. C'est qu'ensuite, il se retrouve totalement isolé parce qu'on préfère le fuir plutôt que d'entendre ce qu'il a à nous dire.
On vous a dit, tous les deux frères de cinéma, tout à l'heure, Samy et... Et Roche dit, vous avez des parcours très similaires. Vous avez démarré le théâtre à 20 ans, à Paris, à Échirolles, à côté de Grenoble. Et vous avez dû vous battre tous les deux pour faire en sorte qu'on vous sorte des cases dans lesquelles on vous enfermait pour vos premiers rôles. On va retrouver une archive qui a un peu plus de 25 ans. Roche dit, vous vous plaigniez des...
Déjà.
Mais déjà, vous vous plaigniez déjà systématiquement des rôles qu'on vous attribue, qu'on vous propose.
Pour l'instant, je m'amuse bien au cinéma, donc je continue. Mais c'est vrai que si un jour je m'amuse plus, ça dépend aussi des rôles, quoi, parce que
nous propose toujours des rôles. Enfin, avant, les scénarios, c'était alors c'est l'histoire d'un immigré, et puis aujourd'hui, maintenant, c'est alors c'est l'histoire d'un beurre, et puis je me dis, bah demain, j'espère que ce sera l'histoire d'un homme tout court, quoi. Enfin, j'espère qu'un jour, je serai considéré comme un comédien à part entière.
Vous avez eu les mêmes plaintes
Oui, bah, on avait les mêmes. Oui, on se faisait les mêmes remarques, on avait les mêmes débats, et voilà, c'était. Puis c'était assez complexe parce qu'on savait pas, de mémoire, on savait pas si on pouvait l'exprimer ou pas, donc on en parlait entre nous, et puis on se disait même, putain, mais on est des hommes invisibles ou quoi, enfin, je comprends pas, tu vois, c'était assez complexe.
Oh, mon vrai problème à l'époque.
Oui, c'était Samy qui était là.
C'était Samy qui décrochait tous les rôles quand on a commencé. Et je me suis dit, ce type va m'empêcher de faire une carrière. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais, on me disait, ah, le rôle est attribué à moi, à qui ? Samy Bojila.
Ah, ça, c'est un autre genre.
Et vous
de
le saviez, ça, Samy ?
Non, mais je vais rectifier, moi, je dis rien, mais bon. Oui, enfin, je l'ai su depuis peu, quoi, parce qu'il me le dit. Mais ça a dû être vrai une année,
non,
peut-être
non,
le
non,
début.
Non. Il est
et
modeste,
après, quand moi j'en tournais un, il en tournait trois. Il y a six jours, là, il en est à quatre.
Après, oui.
Bah, vous êtes rattrapé, puis surtout, vous lui avez confié les rôles.
Oui. Ah bah oui, ça.
Dans Omar Mathieu, notamment.
Omar Mathieu, oui, absolument. Ouais, mais bon, c'est difficile d'en parler devant lui, mais c'est un comédien pour lequel j'ai une profonde admiration. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, depuis 30 ans, dire que Samy est un grand acteur, c'est un pléonasme. Il a une rigueur, il a une façon d'habiter les rôles. Quand je le prends sur mes films, honnêtement, j'ai très peu à le diriger. C'est des petites par petites touches, mais voilà. Enfin, tous les professionnels le savent, c'est un comédien exceptionnel.
Et là, on voit...
Six
films dans lesquels vous avez joué. Indigène, grande fierté, Rochdy, d'avoir vu l'affiche d'Indigène dans le manuel d'histoire de votre fille.
Ouais, c'était en première, hein, c'est ça ?
C'était au collège.
Au collège,
plutôt plus jeune, ouais.
Moi qui n'ai pas réussi à l'école, de voir une affiche de mon film dans un manuel scolaire, oui, il y a beaucoup de fierté, forcément. Et puis aussi, ce que ça a débloqué, pour rappel, Jacques Chirac avait débloqué les...
Bien sûr.
Comment on appelle ça
les indemnisations.
Les indemnisations pour les anciens combattants.
Et Rachid Bouchareb est dans votre film.
Et qui est absolument génial.
Oui, super.
Dans les livres d'histoire, il y a Indigène, mais il n'y a pas Chouchou, non ?
Il n'y a pas
le film de Gad Elmaleh. Vous avez découvert récemment que Rochdy était dans le film de Gad Elmaleh. Vous ne saviez pas ça ?
Dans Chouchou, dans le nouveau.
Dans Chouchou, ouais.
Non, si dans Chouchou, je le savais. Mais je crois qu'il est.
Tu avais même emmené sur le tournage.
Je me souviens que j'étais allée sur le tournage et en fait, je crois qu'il est arrivé sur les plateformes il n'y a pas très longtemps. Donc les gens ont commencé à le revoir et m'en reparlent depuis quelques mois là maintenant de sa petite performance.
Samy et Rochdy, vous avez remercié tous deux vos parents en recevant vos Césars respectifs à une année d'intervalle, Samy en 2021, alors que Rochdy présidait la cérémonie, et Rochdy en 2020.
Je voudrais dire aussi à tous ceux qui ont le sentiment dans la vie parfois de partir d'un peu trop loin, que ce qui est important, ce n'est pas de courir vite dans l'espoir de rattraper ceux qui sont devant, mais de courir plus longtemps. Et pour terminer, je voudrais dédier ce César à mes deux héros, Fatima et Gilali Zanzem, mes parents. Ils ont fait ce que je suis, je leur dois tout. Et soyez-en sûrs, s'ils étaient là, ils vous remercieraient un par un. Je le fais pour eux. Merci beaucoup.
Vous avez aussi la simplicité dans ce genre de propos, tous les deux. La simplicité de quelques mots qui disent tout.
Surtout, je crois que... On réalise le privilège qui est le nôtre d'avoir eu la place qu'on nous a offert dans ce métier. J'avais envie de rendre hommage évidemment à mes parents, mais aussi à la profession. C'est important parce que je crois que les rôles qui nous ont été attribués, il y a eu dans le regard des metteurs en scène beaucoup de gratitude. Les rôles qu'on a pu obtenir avec Samy sont des rôles qui nous ont amenés ici aujourd'hui. Et quand on se retourne un peu, il y a une vraie satisfaction.
Ouais, j'ai rien à ajouter, moi, si ce n'est qu'en plus. Papa venait de partir et papa était un amoureux du cinéma, quoi. C'est papa qui m'a fait découvrir le cinéma. Je suis devenu cinéphile grâce à papa, quoi.
Même si vos parents n'ont jamais vraiment regardé vos films parce qu'ils n'arrivaient pas à séparer le fils de l'acteur.
Voilà, exactement. Donc, assez rapidement, j'ai expliqué à maman, écoute, maman, arrête, c'est pas nécessaire. Papa, s'il l'a fait, il m'a rien dit. Mais... En fait, elle m'avait vu dans un Navarro où j'étais mort et on me sortait du frigo. Elle s'en avait pas remise.
Dans un tiroir.
Alors, vaut mieux que t'arrêtes parce que j'allais faire drôle de Félix où j'étais un homosexuel en trithérapie qui partait à la recherche de sa famille. J'en passe et des machins, je laisse tomber. Elle a plus regardé.
Ouais, lui, il dit papa et maman.
Voilà. Il est pas proche. Les miens, c'est en salle mercredi prochain. Enfin, mercredi là, là. Après-demain. Avec un casting formidable, parce qu'on les a pas tous cités. Mais ce soir, sur nos plateaux, il y a deux des formidables acteurs de cette famille qu'on adore. Sami Boajelani Lazem. Dans un instant, Mustapha Zem, votre jeune frère. Oui. Voilà, vous vous êtes inspiré de son histoire. Il a écrit un livre qui s'appelle pas les miens, qui s'appelle Les pas perdus. Mmh. On l'accueille dans un instant à la table de C'est à vous, le temps de GTA ça, Zoé Bruno.
GTA ça.
Ah. Oula, t'as ressorti ton sarouel et ton djembé aussi?
Oh. Arrête de charrier, c'était en 99 ça. Non, c'est à cause de José. Ah.
Bonjour.
C'est ici qu'on a besoin d'un petit coup de perceuse? Je taquine. Alors, je sais très bien que depuis votre affaire de Métou, là, on peut plus rien dire.
Non, non, mais j'étais pas inquiète.
Tant mieux, parce que les soucis, ça donne des rides.
Je vous montre où mettre le porte-manteau?
Ah ben, je vois qu'on est pressé de passer aux choses sérieuses.
Vous taquinez?
Je sais pas. Et vous? Je taquine! Allez, au boulot!
Tu le sors d'où, ce gros pervers?
De l'appli, là, d'échange de services, voisin-voisine.
T'as proposé quoi, toi, en échange?
Des heures de compagnie. Malin, non?
C'est pas du tout les bonnes chevilles que vous avez achetées, là.
Ah bon? Mais au magasin de bricots, ils m'ont dit que c'était exactement ça qu'il fallait.
Pour du placo, peut-être. Mais là, je peux vous dire que c'est du porteur.
Ça sonne un peu creux, quand même, non? Pardon. C'est vous qui savez. Il est reparti chez lui chercher des chevilles.
Et des capotes, non?
Oh. Non, mais là, c'est fichu, hein. C'est du placo. Je reviendrai demain pour faire de l'enduit.
Oh là là, mais c'est pas la peine de jouer au bricoleur quand on sait pas percer un mur, merde!
Mais vous avez vu comment vous me parlez? Alors, sous prétexte de MeToo, vous vous sentez autorisé à manquer de respect à tous les hommes?
Mais ça n'a rien à voir avec MeToo! C'est juste que t'es complètement nul, mon pauvre José, tu m'as complètement saccagé mon mur!
Comment on s'organise pour l'échange?
Ah, mais là, je crois qu'il n'y a plus d'échange, hein.
J'ai passé 5 heures! Contractuellement, j'ai droit!
C'est horrible. Il me les fait faire demi-heure par demi-heure, les heures de compagnie.
C'est fou, hein. J'ai jamais eu de soucis, moi, avec cette appli. Je me suis même fait des potes.
Bah, évidemment. Perfecta. Pff. J'étais à ça de faire de l'économie collaborative.
Ah. Nina, Samir, Rojdi, bienvenue à la table de C'est à vous, aux côtés de Bertrand de Charmeroy et de Mustapha Zem. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes donc le plus jeune frère de Rojdi, mais aussi vous êtes l'auteur des Pas perdus, votre premier livre, dans lequel vous racontez, entre autres, hein, l'accident dont vous avez été victime et qui est au cœur du film de Rojdi. Rojdi, que vous appelez Sharif dans le livre, ou alors Dumbo, en raison, je vous cite, de ses oreilles décollées et de sa manie de toujours vouloir faire le pitre. C'est sympa parce que les frères et sœurs, ça sort toujours des dossiers. Il ne faut jamais hésiter à les inviter
balance,
à dîner.
Ça balance les dossiers.
Qu'est-ce qu'on fait? On balance les dossiers tout de suite ou...
Oui, oui, bah oui, on ne perd pas une seconde.
On avait dans la famille donc, tous un surnom qui était soit lié au caractère, soit à des traits physiques.
Mm. Je peux... Vas-y, vas-y.
On règle les comptes après.
Il avait des oreilles décollées, donc on l'appelait Dumbo. On avait le frère aîné avait des lunettes triple foyer, on l'appelait...
Dracula. Oui, enfin bon.
Non, 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 pas Dracula. Ça prend une lunette.
Ça prend une lunette, oui.
Voilà, prend. Ma sœur qui avait un appareil dentaire, c'est Dracula. Et puis un frère qui était plutôt afro-américain, qu'on appelait... Je peux le dire?
Moi, non, non.
Moi, je me contentais de ce qu'il y avait dans le livre. Et on vous voit là tous les trois, votre sœur aînée qui vous appelle Doudou. Parce que vous, votre surnom dans le film, c'est Doudou. Et là aussi, c'est Doudou.
Non, c'est Moustachu, moi.
Ouais. Et Moustachu, au milieu, on voit le petit Rojdi avec ses oreilles. Et puis vous, Mustapha, les pas perdus, on en parle dans un instant. Juste le temps de vous présenter notre chef du soir, Vincent Favre Félix, qui est le propriétaire, le chef du restaurant de son nom à Annecy, avec quelque chose auquel j'ai participé ce soir. Qui a récolté mon roulet raté?
Comment? Le roulet raté?
Oui,
oh, ça va, on l'a récupéré.
D'accord, ok. Alors, déroulé de...
Alors, on est sur un roulet de brochet en feuilles de blette avec une blette rôtie et des œufs de brochet fumés. Et vous avez un lait de tourteau pour agrémenter tout ça.
Merci.
Merci beaucoup, chef. À demain. Mustapha, aujourd'hui, vous allez très bien. C'est presque un miracle, vous ont d'ailleurs expliqué les médecins, parce qu'il faut en moyenne 2 ans et demi de convalescence. Vous, en à peine 9 mois, vous êtes rétabli. Résultat, vous avez aujourd'hui un livre de 400 pages entre les mains. C'est irrationnel. Il n'empêche, vous dites que rétrospectivement, ça a été une souffrance d'avoir été aussi dur, d'avoir été cette autre personne pendant plusieurs mois. Vous en êtes... Mais, excusé auprès du médecin qui vous aidait à guérir, et vous a dit, mais vous inquiétez pas, j'ai eu bien pire que vous. Vous avez parlé d'un homme qui confondait sa femme avec un porte-manteau.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il a donné quand même pas mal d'exemples où je me suis dit que j'étais pas le pire, et c'était assez surprenant. Mais vous parliez tout à l'heure de miracles. Lors de la dernière consultation, on a quand même eu... on s'est vu assez longtemps et on a quand même construit une belle amitié, je le remercie aujourd'hui. Il m'avait dit, je suis docteur neurologue, je donne des conférences, et pourtant je me suis réuni avec des confrères, j'ai montré ton dossier, ils ont vu l'état et les IRM, et quand je leur ai expliqué où tu en étais aujourd'hui, on a tous convenu d'un mot qui est pourtant proscrit dans notre jargon médical, c'est le mot miracle. Donc voilà, je suis...
Le neurologue qui joue son propre rôle dans le film, d'ailleurs.
Ah, oui. C'est lui, d'accord.
Ouais, tout à fait.
Ah, donc c'est lui dont l'un des patients confondait sa femme avec un porte-manteau. Et
entre autres, mais après, il y en a des anecdotes qui sont assez croustillantes.
Il n'y a que ça qui l'intéresse.
pas du tout, mais c'était assez amusant. Mais Patrick.
On va voir une scène du film où vous êtes sur le chemin des retrouvailles, si l'on peut dire. C'est quand vous allez en Normandie faire une interview d'un joueur de foot, vous emmenez votre frère pour l'accompagner, et puis il se retrouve comme ça, un peu perdu, sur la terrasse de l'hôtel, je crois que ça doit être à Cabourg.
À Cabourg, hein. Absolument.
C'est à Cabourg, voilà, on va voir la scène.
Et on évoquera, je sais que ton agent nous a dit de ne pas le faire, mais on va évoquer ton transfert, parce que toute la presse en parle, moi je ne peux pas...
Je comprends totalement.
Si je ne l'évoque pas, ça fait étrange. Alors, on sait que tu iras en Angleterre,
Il est où le petit déjeuner?
Qu'est-ce que tu fais là?
Le petit déjeuner.
Pardon, c'est bon. Le petit déjeuner, mais c'est à l'hôtel, le petit déjeuner.
Tu viens avec moi?
Je l'ai déjà pris. Hein, je travaille, là. Viens, attends. Nina, s'il te plaît, va prendre ton petit déjeuner tranquillement. Prends ton temps. Et puis, on se retrouve après. D'accord? Dès que j'ai terminé.
Oui.
D'accord?
Oui.
Et là, je termine ce que j'ai à faire. Et cet après-midi, on est ensemble. D'accord?
Voilà, ça, c'est dans le film. Très jolie scène. Dans la vraie vie, Rojdi vous a emmené jouer un match de foot. C'est cela, Mustapha?
Oui, alors... On a une complicité qui dure depuis 50 ans. Et Rojdi m'a accompagné, en fait, comme il expliquait tout à l'heure, le fait que, outre un comportement agressif et totalement désabusé, je me suis un peu complètement isolé des miens parce que c'était... devenu absolument insupportable et invivable pour eux de voir ce personnage, que ce soit le frère ou le père, complètement métamorphosé. Il y a une scène où on me compare à l'exorciste. Hein, c'est...
Oui.
Et en fait, la seule personne qui est restée avec moi, c'est Rojdi, et il m'a accompagné à toutes mes consultations. Et ce sont des retrouvailles, en fait, effectivement, où on a retrouvé un petit peu aussi nos réflexes d'antan, d'enfant. Ouais, ce sont des retrouvailles, effectivement.
Voilà, Rojdi...
Oui, je suis pas si mauvais.
Mais personne n'a dit ça.
Il s'est rattrapé.
Mais bien sûr. D'ailleurs, vous le remerciez, Rojdi, dans votre livre. À Rojdi, mon alter ego, mon pote, mon frérot, il y a des mots, des personnes, des situations qui ne font rire que nous. Il nous suffit d'un seul regard pour se comprendre. Ça énerve tout le monde, mais ça nous fait marrer. Reste ce gros houlou que tu as toujours été. C'est comme ça que je t'aime. C'est bien là où je voulais en venir.
La conclusion qui vous intéresse.
C'est vrai que vous connaissez tous les noms des personnages, de tous ces personnages de fiction?
J'ai cette prétention, effectivement.
Mais il en a joué une centaine.
Mmh. Oui, mais...
Vous les connaissez tous.
On fait
dans Roubaix, une lumière.
C'est le commissaire... Non, mais... Non, mais Roubaix... J'ai eu un accident entre-temps.
Pardon.
Non, mais pour la petite histoire, il a un côté Rain Man, parce que quand on était petit, il s'amusait à apprendre les plaques d'immatriculation de toutes les voitures. La chambre de notre fenêtre donnait sur un parking.
Ah oui.
La fenêtre de notre chambre, plutôt. Et il apprenait, et je disais, donc la 404 bleue au fond à gauche, 93. Et truc absurde, inutile, mais c'est pour ça qu'il y a une scène dans le film où à un moment je lui fais faire un calcul mental.
73,
ça, c'est la première chose que j'ai fait quand je lui ai rendu visite après son accident. Je voulais voir si ses fonctions cognitives étaient intactes. Et donc, il répond dans son sommeil, il donne le bon chiffre. Et je me dis, bon, c'est déjà ça. Et,
Les pas perdus, c'est un autre regard sur les miens de Roche Dizem. Donc, on recommande votre premier livre, cher Mustapha, et on recommande d'aller voir les miens. C'est en salle après-demain. C'est un très, très, très joli film, très réussi. Bravo à tous les quatre.
Merci.
Voilà. J'ai bafouillé toute l'émission, vous avez remarqué, Rochdi, donc je ne finirai pas cette phrase non plus. Voilà. Et je lance, on me dit, lance l'ABC. Non, parce qu'on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand.
Bonsoir à la une de ce 21 novembre. Il est des moments où il faut savoir remiser le nez rouge au placard pour parler avec le cœur. Voici un message fort que je tenais ce soir à adresser à nos téléspectateurs. Parce qu'à nos yeux, les droits humains prévalent sur le business et le spectacle. Parce que ces stades ont eu un prix, des vies humaines. Parce que chacun doit pouvoir vivre sa sexualité comme il l'entend, librement. L'ABC a décidé de boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Et accessoirement parce qu'on n'a pas les droits de diffusion des matchs qui coûtent une blinde. Sinon, on aurait fait comme les autres, on aurait fait les tartoches de ces trucs comme tout le monde. Mais vu le prix de la minute, si je diffuse un extrait de match, on ferme la boutique. C'est rideau direct. Je rassure tout de même les fans de foot. On va un peu parler de cette Coupe du Monde qui est assez spéciale, sans images des matchs, mais également, comme le veut le contexte, sans bière dans et aux abords des stades, sans brassard LGBT, sans Karim Benzema et une bonne partie des titulaires chez les Bleus. C'est l'heure de notre Point Qatar 2022 qui est sponsorisé par les partenaires. Retrouvez la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec de l'eau plate, des patchs auto-chauffants thermocare pour le mal de dos, Christine Boutin et Mondial Assistance. Et de tous les envoyés spéciaux, vous savez qui est notre préféré, c'est évidemment Jacques Vendroux pour CNews qui a débuté ses Skype avec Pascal Pro la semaine dernière dans un décor plutôt particulier.
Il y a fait une petite boulette parce que l'intervention chez vous n'était pas très prévue, oui. Mais la prochaine fois, on va faire un décor digne de votre émission.
C'est pas plus mal parce que là, c'est que ça sent quand même un peu le serial killer. Et aujourd'hui, Pascal Pro a de nouveau appelé Tonton Moustache en visio.
Jacques ! Jacques Vendroux, il est là ou pas ? Il est là ?
Ça marche pas, non.
Bon, Vendroux dit tout. Jingle, jingle.
Comment ça va ?
Jingle !
Tonton, allume la caméra et rapproche-toi près de la caméra, on ne te voit pas. Ça... Alors, comment ça se passe cette Coupe du Monde, Tonton ?
Oh là là !
Voilà, yes.
Les dents dans la nuit a été rude, hein. Comment ça va ?
Et vous ?
Allez, merci, à demain, Tonton Moustache. C'est pas la grande forme pour les Bleus à 24 heures de leur premier match. Heureusement, ils peuvent compter sur le soutien des journalistes pour leur remonter le moral et ne pas trop remuer le couteau dans la plaie. Juste un tout petit peu, là, vous titillez avec la pointe.
Est-ce que vous dites aujourd'hui que tout ce qui vous est arrivé vous enlève un peu de pression ou est-ce que vous dites que tout ça n'est pas très bon signe ?
L'avalanche de pépins et de forfaits... remet en cause ou pas l'objectif initial.
Racontez-nous cette soirée de cauchemar.
On pourrait avoir l'impression de l'extérieur qu'il y a comme un sentiment de poisse. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous impacter ?
Oh ben non, on est totalement serein, vous pensez ? Et après les nombreuses blessures et le forfait de Benzema, un nouveau pépin frappe les Bleus et c'est tombé sur Eduardo Camavinga.
Bonjour.
Guillaume Lenné pour le journal Ouest France.
Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît.
Fouad Smaïl, Doris FM.
Vous pouvez parler plus fort.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous pensez ? De l'équipe australienne.
Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Et parler plus fort, parce que je n'ai pas entendu.
Hein ? Bon, je pense qu'on peut rajouter un nouveau sponsor à la liste. C'était le Point Coupe du Monde 2022 au Qatar avec de l'eau plate, des patchs auto-chauffants thermacaires, Christine Boutin, Mondial Assistance et Audica.
Il a fait la vanne avant.
Évidemment. Et quand je me dis que j'ai les mêmes vannes que Patrick, je pense qu'il est temps de se remettre en question sévèrement. Et puis ce matin à Matignon avait lieu l'événement le plus choupi de cette fin d'année, le Conseil des ministres des enfants. Et ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'ils vont droit au but quand ils ont quelque chose à dire, et ce, quel que soit le lieu, comme ici, à propos des arbres et de l'avenir de la planète.
Les arbres comme ça, ça nous aide à respirer, c'est précieux, précieux que tout. Parce que si on les coupe tous,
ben on meurt.
Voilà, fin de l'histoire morale.
Et voilà, fin de l'histoire morale. Si on coupe les arbres, on meurt tous. Merci, mon petit bonhomme. Et ce qu'on aime aussi chez les enfants, c'est cette innocence et cette capacité à rire de tout, quel que soit l'endroit. Qui aurait pu imaginer un jour le mot PQ prononcé à Matignon devant des caméras ?
Parce que les toilettes, ils sont très mauvais. Et il y a du papier à PQ par terre. Et du chauffage.
Du chauffage.
Des investissements métiers.
J'ai pas compris, mais j'ai placé le mot PQ devant la première ministre et ça vaut tout. Bon, après, ça reste des enfants et des enfants, après quelques minutes à côté d'Elisabeth Borne et Olivier Véran, ça fait quoi?
J'avais aucune idée de ce que c'était que la politique, ce que c'était que la démocratie, ce que c'était.
Ben, ça s'ennuie, donc ça joue au microscope avec le micro. Et sinon, ça termine sa nuit.
Ah, oui, carrément.
Ah bah oui, il a fait sa tirade sur les arbres et après il était au bout.
Retenu pour certains de loin, je crois qu'il y en a qui sont un peu fatigués.
Non.
Merci pour vos témoignages.
Ah enfin c'est fini, je vais pouvoir rentrer. Au même moment, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, présentait la réforme de l'assurance chômage. Prise de parole retransmise en direct sur la chaîne YouTube du ministère, qui a commencé le live un peu trop tôt, avant même l'arrivée du ministre.
Ils sont déjà là ?
Et c'était moi. Et oui, parce qu'il n'y avait pas que l'image, il y avait le son aussi.
Est-ce qu'il y a du son dans YouTube si tu
Après, de nous, on n'en fera rien du fichier derrière, de toute façon.
Non, mais moi, ça peut me faire une chronique.
Oui, je vous entends.
Mais moi aussi, je vous entends. En pensant que personne ne regardait ce live, la cellule web du ministère s'est laissée aller à quelques confidences.
Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu programmes, il pense. Sur
programme
à
11h45, et c'est vrai, on fait quoi si le ministre du Travail déboule en se grattant le cul? Bonne question. Voici la réaction du staff après avoir été prévenu que tout le monde les entendait sur YouTube.
En tout cas, il vaut mieux couper d'ici, vous, parce que là, on fait une simple forme et on a une bonne
À voix basse, oui, mais vous avez quand même craint que le ministre du Travail déboule en se grattant le... Enfin bon, c'est compris. Et on referme ces actualités avec l'autre match qui se joue ce soir, le débat des Républicains sur LCI, qui sait recevoir et poser les bonnes questions.
Événement sur LCI. Qui d'Éric Ciotti, d'Aurélien Pradier ou de Bruno Retailleau présidera le parti Les Républicains? À quoi sert-il aujourd'hui?
Eh bien, bonne question, réponse mardi, l'info continue demain, bonne soirée.
Bravo Bertrand Chameroy, les actualités, c'est tous les soirs dans C'est à vous. Merci beaucoup Nina, Samy, Moustapha, Rojdi. Les miens, c'est mercredi en salle. Les pas perdus, c'est déjà disponible chez Lattès. Vous l'avez lu Nina?
J'ai pas encore lu, j'ai besoin de récupérer le manuscrit.
Et il faut que, voilà, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. Je précise, Roche Dizem, que vous êtes président également. Président du Festival du film européen.
Les Arcs.
Qui démarre aux Arcs, voilà, du 9 au 17 décembre. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir notre invitation.
Merci à vous. Merci.
Tout de suite sur France 5, voyage au cœur des Alpes. J'ai pas plus d'informations. Donc n'hésitez pas à rester pour en savoir plus. Si vous voulez bien, vous tournez vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 19h en direct. Gros bisous, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.